Lizzie présente Croire aux forces de l'esprit de Marie de Henzel. Lu par l'auteur. À François Mitterrand. Tout ce qui suit s'inspire du journal que j'ai tenu pendant 12 ans, de 1984 à 1996. Jadis, il y avait une hauteur, Paul Celan. Et il y a bien aussi des instants où un homme devant toi se détache, calme et clair, sur fond de sa splendeur. Ce sont des fêtes rares que tu n'oublies jamais. Cet homme, désormais, tu l'aimes. C'est-à-dire, tu t'appliques de tes mains tendres à copier les contours de sa personnalité telle que tu l'as perçue à cette heure. Rilke, note sur la mélodie des choses. J'ai attendu le recul des jours. Il n'eût pas été bien d'écrire dans la foulée de sa mort, dans la précipitation et le tumulte des livres sur lui, dans le tourbillon des passions et des haines levées après son passage. La distance donne une liberté. Sœur Emmanuel, à qui j'avais confié certains de ces moments partagés avec lui au fil des années, m'avait fortement incité à prendre la plume. « Vous devez écrire, Marie, il le faut, car vous avez connu l'homme profond, intérieur, mystique, l'homme vulnérable. Cet homme-là, l'histoire doit le connaître aussi. » J'ai attendu cependant. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et je me sens libre de raconter. Tant de pages ont été consacrées à François Mitterrand. Pourtant, les années passant, j'ai constaté que l'on a bien peu évoqué la dimension que j'aborde dans ce livre, la curiosité spirituelle de l'homme, son intériorité. À l'occasion de la célébration de son centenaire, j'ai donc décidé de partager ce que j'ai découvert et ce que je sais de cette face peu connue du président. Il se détache, désormais, calme et clair, sur fond de sa splendeur, son aura de chef d'État intacte dans le cœur de tant de Français que j'ai eu l'occasion de croiser au cours de ces 20 dernières années. Il se détache dans mon souvenir tel que je l'ai aimé, tel que je l'aime toujours. Nos rencontres, au long des 12 dernières années de sa vie, ont été des fêtes rares que je n'oublie pas. Non pas rares dans le temps, car il est arrivé que nous nous voyions plusieurs fois par mois, mais rares du fait de leur qualité. Je m'applique donc ici à copier les contours de sa personnalité telle que je l'ai perçue en ce temps-là. Il est des rencontres qui nous dépassent. Ma rencontre avec François Mitterrand s'inscrit parmi elles. Rien ne pouvait me laisser prévoir l'intensité du choc éprouvé lors de notre premier contact. Rien, en effet, car le personnage public entrevu dans les médias m'avait toujours laissé dans une sorte d'indifférence. Nous sommes le 6 novembre 1984. Mon frère, Jacques de La Ferrière, alors chef du protocole de l'Élysée, m'a convié à la cérémonie au cours de laquelle François Mitterrand doit lui remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur avant son départ comme ambassadeur à La Haye. Le jardin d'hiver est plein à craquer. Les invités forment un large cercle autour des 6 récipiendaires qui patientent debout dans le brouhaha général. Soudain, un grand silence se fait et j'aperçois François Mitterrand entrer d'un pas raide et fatigué, le visage pâle comme la mort. Il improvise pour chacun de ceux à qui il accroche l'insigne écarlate un bref discours senti et sincère. Mon frère paraît très touché. Quelques minutes plus tard, Jacques vient me chercher. Il veut absolument me présenter au président. Celui-ci a commencé à serrer des mains, puis je le vois se diriger vers moi et planter son regard dans le mien. C'est la première fois que je rencontre le président de la République et je suis sincèrement émue. Il se passe alors quelque chose d'étrange et que je n'oublierai jamais. Dans ce face-à-face de quelques secondes, je perçois de la solitude dans ses yeux et je sais deux choses, qu'il est malade et que je le reverrai. La nuit suivante m'apporte un rêve. Je suis avec François Mitterrand. Il doit s'engager dans un passage plein d'eau, une sorte de long tunnel souterrain menant je ne sais où. Je dois l'accompagner, car je sais comment respirer sous l'eau. Je dois en quelque sorte lui apprendre à survivre dans cet élément. Je me suis réveillée en nage. À l'époque, j'exerce comme psychanalyste jungienne et je suis attentive à mes rêves que je note scrupuleusement et avec lesquels j'ai appris à dialoguer. Je sais reconnaître les grands rêves, ceux qui tracent un destin, et celui-ci est de cela. L'émotion que j'éprouve au réveil suffit à me le confirmer. Il s'est passé quelque chose dans cette rencontre, et j'ai un rôle à jouer auprès de cet homme, j'en suis convaincue. Lequel ? Il est question de souffle, d'esprit, de vie. La journée suivante, le rêve m'obsède. Je sais qu'il n'est pas seulement un effet de mon imagination ou de mon désir inconscient. Dans ce court moment où nos regards se sont rencontrés, où nos mains se sont touchées, j'ai su que je vivais une rencontre inéluctable et qu'il avait éprouvé la même impression. Le lendemain, me vient l'idée de lui écrire. Une idée que j'écarte d'abord, me traitant de folle, mais elle persiste et s'impose. Je décide de la prendre au sérieux. Le soir venu, je me mets à noircir plusieurs pages de papier que je déchire les unes après les autres. Plus j'écris, plus le projet me paraît insensé. Je décide de me coucher. Et au réveil, c'est d'une traite que j'écris la lettre. La nuit me l'a en quelque sorte dictée. Monsieur le Président, hier, à l'issue de la remise de décoration, je vous ai été présenté. Je n'oublierai jamais votre visage, ni l'impression profonde qu'il m'a fait. Permettez-moi de vous témoigner très simplement ma sensibilité à ce que j'ai perçu de la solitude intérieure où vous êtes et de vous assurer de ma prière. Si parfois des ondes de paix et de douceur viennent alléger le poids que vous portez, sachez qu'un courant d'amour vous les destine. Daignez agréer. Toute la journée, j'hésite à la poster. Puis, comme cela m'arrive quelquefois quand je ne sais vraiment plus si je dois ou non faire quelque chose, je décide d'interroger le Yi Qing, un vieux texte de divination censé éclairer les décisions. C'est une pratique à laquelle je m'exerce depuis longtemps, car la pensée chinoise fait partie de mes centres d'intérêt. La réponse est favorable. Je jette la lettre dans une boîte en me disant « Advienne que pourra ». Quelques jours plus tard, le 16 novembre, une lettre arrive, datée du 14. L'enveloppe porte le tampon de l'Élysée, mais mon nom et mon adresse sont libellés à la main d'une belle et grande écriture tracée à l'encre bleue. Je suis à peine étonnée. Je l'attendais. Je l'ouvre dans la précipitation et déplie un petit feuillet à l'entête du président de la République que couvre la belle écriture à l'encre bleue. Madame, vous l'avez souhaité. Votre lettre m'aide. Je vous en remercie. J'aimerais vous connaître. Est-ce possible? Il vous suffit de me le dire. Le mot correspondance a pour moi son véritable sens grâce à vous.